Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Leguet.
Jean Sévilla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes déjà venu tout récemment avec Anne Sauty-Chalon donc pour une présentation d'ensemble de points de votre livre. Et donc, nous faisons un second entretien sur d'autres éléments de ce même livre qui nous réunit, à savoir Historiquement incorrect, que vous venez de faire paraître chez Fayard. Donc, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro Magazine et auteur d'un certain nombre d'essais qui ont rencontré un franc succès. Je pense en particulier au Théorisme intellectuel, en 2000, à Historiquement correct, 2003, avec 120 000 exemplaires, Moralement correct, 2007, et maintenant, dans cette même veine, je ne parle pas de vos deux biographies, celle de Zita l'impératrice en 1997 et de Charles d'Autriche en 2009, donc dans cette même veine, Historiquement incorrect, donc qui vient de paraître chez Fayard, alors que tous vos autres livres étaient chez Perrin. Alors, pour ce travail, nous voudrions, dans ce premier élément de discussion, bien comprendre pourquoi est-ce que vous faites tout cela, pourquoi est-ce que vous subissez comme ça un peu les foudres des uns et des autres qui vous taxent d'a priori, d'idées plus noires les unes que les autres. Il me semble que votre mise en évidence des trois bêtes noires que vous pointez du doigt, et en particulier dans votre préface, à savoir l'anachronisme d'une part, le manichéisme d'autre part, et l'esprit réducteur en troisième lieu, que tout cela vient d'une idée que vous vous faites, d'une rectification nécessaire de tous les lieux communs qui peuvent exister et qui sont véhiculés par le plus grand nombre sur tous ces sujets-là. Alors ma première question, c'est quels sont les éléments réactifs qui vous ont fait écrire, d'une part, et deuxièmement, quels sont vos différents ennemis que vous pourfendez, non pas avec une mauvaise foi ou avec beaucoup d'a priori, mais en pointant du doigt des éléments historiques précis, ce que vous faites dans ce dernier livre.
Ce qui m'anime, ce qui anime le travail que je poursuis à travers cette série d'essais, qui en effet, comme vous venez de le rappeler, a commencé avec le terrorisme intellectuel en 2000, c'est le constat que le débat d'idées en France est orienté, biaisé. Il l'est pour des raisons sociologiques d'abord, parce que les acteurs par lesquels passe le débat d'idées, passe l'enseignement, les deux principaux, enfin les trois, c'est le monde de l'enseignement, le monde de la culture ou le monde médiatique. Ce monde, si on le sait, parce que c'est une donnée banale de le dire et qui n'est pas honteuse en soi, mais je veux dire, c'est un monde où à 80%, qui est politiquement, qui a des choix qui sont des choix de gauche, progressistes, que je ne récuse pas en tant que tel. Ce ne sont pas les miens, mais enfin, nous sommes dans un monde démocratique, donc qu'il y ait un poumon de gauche, un poumon de droite dans un pays, c'est légitime, c'est ainsi. Simplement, cette proportion de 80% devient une disproportion. Et donc, ça devient, même si ces acteurs s'en défendent, ça devient une sorte de filtre. Et donc, l'école est orientée, le discours médiatique est orienté, le discours culturel, globalement, est orienté. Et donc, moi, le travail que je poursuis avec d'autres, parce que je ne prétends absolument pas avoir le monopole de l'incorrection politique, c'est un travail de remise des pendules à l'heure, d'expression d'un certain nombre de vérités qui passent pour interdites au nom d'un système que j'ai qualifié de terrorisme intellectuel, alors qu'elles ne sont que l'expression soit du bon sens, soit d'un certain nombre de traditions historiques. Donc voilà, je cherche à en faire entendre une voix différente, et non pas une voix fondée, puisque mes travaux sont des travaux d'historien journaliste ou du journaliste historien, non pas fondée sur mes propres élucubrations, ce ne sont pas les idées de Jean Sévilla, ce sont des faits. C'est-à-dire que là où on nous affirme comme une affirmation morale, comme un impératif catégorique de type kantien, telle ou telle vérité autoproclamée, eh bien moi j'apporte des faits qui sont tirés de l'histoire, qui sont tirés de l'actualité, qui contredisent ces affirmations qu'on nous assène et qu'il serait malséant ou immoral de contester. Donc moi j'oppose les faits à un discours qui est un discours idéologique. Alors, évidemment, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Si on veut me classer politiquement sur un axe gauche-droite, je vais être situé à droite. À mon sens, ça n'entre pas dans des étiquettes, mais je suis chrétien, je suis catholique, je ne m'en cache pas. Donc, évidemment, c'est aussi mon regard. Mais enfin, les fêtes que j'apporte sont des fêtes. Et donc, toujours dans mon travail, j'essaye, si j'ai pu commettre des fautes à cet égard, je le regrette et j'essaye de les corriger, mais j'essaye d'être vraiment objectif. C'est-à-dire que je ne cherche pas non plus à faire du manichéisme ou manichéisme que je reproche, que je dénonce, je n'oppose pas manichéisme inversé. J'oppose des faits. Et si le monde de la droite, pour faire court, ou le catholicisme a fait des erreurs, eh bien je le dis. Voilà. C'est ce que j'essaye de faire.
Ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'il y a un effet de va-et-vient, de certaine façon, entre ce que vous condamnez dans l'aujourd'hui, je pense en particulier à Moralement Correct, et puis aussi ce que vous condamnez dans la déformation de l'histoire telle qu'elle apparaît. C'est-à-dire que l'histoire, et vous reprenez souvent cette formule qui est quand même une formule singulière d'Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle le présent. Et donc, vous êtes là, dans Historiquement Incorrect, dans un livre qui corrige ce qui a été déformé aujourd'hui par ceux-là même, dites-vous, qui tiennent ce politiquement correct, qui déforme la lecture ou la compréhension, ou même qui filtre, comme vous venez de le dire, le passé pour qu'on le comprenne aujourd'hui comme on veut le comprendre et non pas tel qu'il était. Donc est-ce que le politiquement correct déformant l'histoire, déformant le passé, n'est pas finalement votre bête noire, enfin ce qui, d'une certaine façon, vous exaspère, considérant que l'histoire, ce n'est pas cela, ce n'est pas aujourd'hui projeté dans le passé?
Alors, dans le cas du travail que j'ai fait pour Historiquement Correct et maintenant pour Historiquement Incorrect, mais c'était le cas aussi sur l'essai que j'avais publié sur « Quand les catholiques étaient hors la loi », sur la crise de la séparation de l'Église et de l'État au début du XXe siècle. C'est évidemment l'histoire que j'ai creusée, parce que ce que j'appelle l'historiquement correct, en réalité, ce n'est pas une démarche de connaissance du passé, ce n'est pas une démarche scientifique, c'est une démarche d'utilisation du passé pour lui faire dire quelque chose pour les hommes d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un procédé qui consiste à comprendre comment les hommes ont vécu autrefois, ce qu'ils ont fait. En réalité, il s'agit, dans l'historiquement correct, cherche à modeler, à créer, à refaire une image du passé pour qu'elle cadre avec les références culturelles d'aujourd'hui, avec les mentalités d'aujourd'hui, avec les images d'aujourd'hui. En réalité, donc, on veut faire dire au passé quelque chose pour aujourd'hui. Et c'est une arme de combat culturel, idéologique, politique, que l'historiquement correct, et c'est pour cela que je le dénonce. Et donc, en fait, en travaillant, évidemment, sur des sujets du passé, eh bien, j'apporte des réponses pour aujourd'hui, puisque les mensonges que l'on nous fabrique, les manipulations que l'on opère, sont en réalité conçues pour répondre à des enjeux qui sont des enjeux contemporains.
Alors, ce qui est amusant, c'est que d'une certaine façon, vous dites aux historiens, vous êtes journaliste, vous l'avez dit, vous donnez la parole à des historiens, plus historiens que vous-même. Ce qui est singulier, c'est que d'une certaine façon, vous donnez une leçon de méthode à des historiens en leur disant, oui, il faut relativiser, il faut mettre dans son contexte, il faut éviter de voir hier comme on pense que les choses se sont passées aujourd'hui. Voilà. Et donc, il me semble que votre principal adversaire, entre guillemets, c'est ceux des historiens qui ne sont pas historiens, au sens où qui sont difficilement capables ou peu capables de resituer dans son contexte des événements que l'on appréhende d'une manière ou d'une autre.
Alors, je vous remercie de le souligner parce que vous avez énoncé deux idées importantes. D'abord, en effet, je ne revendique pas une autorité d'historien universel. Je suis journaliste et historien. Comme historien, j'ai mes propres domaines de recherche. Ça, ce sont mes biographies. Hein. C'est l'Autriche des Habsbourg, où là, je pense avoir une vraie compétence, où j'ai travaillé comme un véritable historien, travaillant avec les archives, les témoins, etc. Pour le reste, je ne suis évidemment pas ni spécialiste du Moyen-Âge, ni spécialiste de la Grande Guerre. Mon travail est un travail de synthèse, je ne le dissimule pas. Mon métier de journaliste est un métier qui est fondé sur les livres. Je fais de la critique de livres, essais ou histoires au Figaro Magazine depuis plus de 25 ans. Et donc, en 25 ans de lecture, on finit quand même par apprendre beaucoup de choses. Et même si je ne suis pas agrégé d'histoire au sens strict, je pense savoir sur un certain nombre de sujets historiques bien beaucoup plus que de professeur. Enfin, je le dis peut-être un peu immodestement, mais j'en suis persuadé parce que je l'ai constaté. Et puis, après tout, si j'avais fait de mes deux biographies, si j'avais présenté sous forme de thèse, c'est aujourd'hui docteur en histoire. Je trouve que ça ne s'est pas trouvé, c'est comme ça. Bon. Donc, je suis prudent en disant je ne suis pas historien parce que Il y a un peu des critères culturels en France. On veut qu'il faut un minimum une agrégation ou un doctorat. Je n'ai pas ces titres-là. Bon, maintenant, il y a beaucoup d'historiens d'aujourd'hui, d'historiens connus, qui ont fait une œuvre d'historien sans avoir ces titres. Mais le journalisme est une forme de pratique de l'histoire. Sur le métier de journaliste, au fond, c'est le même métier que le métier d'historien. On part, on a un sujet à traiter, on va chercher toutes les sources, on lit tout ce qui s'est écrit déjà sur le sujet, on regarde les prédécesseurs, et à partir de tout ce matériau, s'il y a des témoins, on essaye de les voir. Le journaliste enquête comme l'historien, au fond, et puis on se fait une idée du sujet, on en tire des conclusions dans sa tête, et puis on rédige, et puis voilà, c'est le même procédé. Mais donc, moi, j'interroge, j'ai lu les spécialistes. Voilà. Sur les sujets dont je ne suis pas spécialiste, je lis les spécialistes et je confronte leur point de vue. Je lis tous les spécialistes, c'est-à-dire que pour le coup, je n'ai pas d'œillères. Ça, c'est un procédé de méthode, c'est-à-dire que je lis aussi les historiens dont les idées meurent ou dont je ne partage pas les conclusions. Mais je mets en regard leurs différents travaux et donc, moi, je confronte les différentes thèses des spécialistes.
Et que vous citez abondamment.
Que je cite. Hein, voilà. J'essaie de faire toujours un travail où il y a des références. Et donc, à partir de cela, eh bien, j'avance ce raisonnement. Et alors, pour répondre à la seconde partie de votre question, en effet, ce que je mets en cause... Et là, pour le coup, 25 ans de livres de critiques littéraires d'essais ou d'histoire m'ont appris à le faire. On discerne assez vite, dans un livre d'histoire, là où les présupposés idéologiques ou politiques abondent et là où ils finissent par déformer le regard de l'historien. Et il y a aujourd'hui, il paraît, en France, un certain nombre de livres qui sont écrits par des gens qui ont le label historien, au sens universitaire du terme, mais qui, en réalité, sont des ouvrages... Pas forcément des pamphlets, ça serait exagéré, mais enfin, qui sont des livres extrêmement engagés, qui cherchent à prouver une thèse, mais pas la thèse, pas dans le sens universitaire du terme, mais la thèse, il y a vraiment une idée directrice. Or, l'idée directrice, à mon sens, c'est contradictoire avec le travail de l'historien. L'historien est un homme qui découvre le réel au fur et à mesure qu'il creuse un sujet, et s'il part au contraire dans un principe qu'il va lui servir de grille de lecture, eh bien, il déforme la réalité, parce qu'il ne prend dans la réalité que ce qui va dans le sens de sa thèse, et il écarte, à contrario, ce qui contredit sa thèse. Ce qui est donc contraire qu'une bonne méthode.
Oui, donc le paradoxe que je poursuis, c'est que d'une certaine façon, on vous prête beaucoup d'a priori, alors que justement, vous cherchez à les déceler chez les autres, chez des historiens plus « professionnels » entre guillemets que vous, parce que ceux-ci, sous le couvert ou sous l'apparence de leur science historique, cachent, comme le cheval de Troie, emporte avec eux beaucoup plus d'a priori que vous n'en avez vous-même.
Oui, et d'ailleurs, je dois dire que moi-même, j'ai eu des a priori dans ma jeunesse, d'une certaine manière, dont je me suis débarrassé. C'est-à-dire que le travail que je fais, moi-même, m'a appris, évidemment, j'ai appris beaucoup sur l'histoire, mais je me suis débarrassé d'un certain nombre d'idées que j'avais plus jeune, qui venaient de, voilà, de mon parcours intellectuel, peu importe, je ne suis pas là pour parler de moi en tant que tel. Et donc, ce travail voilà, m'a même enlevé des œillères que j'ai pu avoir autrefois.
Pour poursuivre un tout petit peu dans cette présentation générale de vous-même, de votre entreprise, de ce pourquoi vous faites cela, pourquoi est-ce que vous exposez comme cela à prendre des coups un peu de tout le monde, de tous ceux qui savent, vous qui êtes censé ne pas savoir, il me semble qu'il y a deux éléments qui apparaissent un peu en filigrane de vos travaux. C'est premièrement, et vous avez dit clairement effectivement que vous ne cachiez pas ni votre appartenance à l'Église catholique, ni votre sens politique plutôt à droite qu'à gauche. Deux éléments. Un sens, disons, chrétien de la fidélité pour éviter de laisser propager des mensonges qui, si on ne les dénonce pas, semblent être des mensonges acceptés par tous. Ça, c'est la première motivation qui me semble exister chez vous. Et la deuxième, c'est une forme de responsabilité, non pas collective, historique, mais personnelle. Personnelle, c'est-à-dire que c'est vous qui devez, si vous le pouvez, si vous en avez les moyens, et vous en avez, dénoncer ce qui est à dénoncer parce que votre engagement personnel, votre sens de la responsabilité personnelle serait engagé si vous ne faisiez rien.
Oui, pour votre première remarque, on dit dans l'Écriture que seule la vérité rend libre, c'est dans Saint Jean, évidemment. Alors, la vérité, c'est, dans Saint Jean, c'est avec un grand V, c'est la bonne nouvelle, c'est l'annonce du message du Christ. Et je ne vais même pas dire en plaisantant, je ne me compare pas avec le Christ, mais il n'y a même pas besoin de le dire. Bon, mais il est vrai que, comme chrétien, j'essaye d'avoir cette passion de la vérité. Je veux dire, la vérité du Christ et la vérité de l'histoire, ce n'est pas la même chose, on n'est pas dans le registre, bien évidemment. Mais enfin... Il me semble que quand on est chrétien et qu'on essaie d'être un chrétien cohérent, on doit avoir le goût et la passion de la vérité parce que c'est notre religion qui nous le demande. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Alors ensuite, je pense en effet que la parole publiée oblige, qu'il y a une responsabilité morale, intellectuelle, de l'homme qui publie. Et je publie des livres qui ne sont pas des livres gratuits, qui ne sont pas des livres, je veux dire, que je n'ai pas écrit ça sur un coin de table et en me disant « advienne que pourra ». Je n'ai pas non plus l'outrecuidance de croire que j'ai une mission et que mon œuvre va rester à la postérité. Ce n'est pas cela. Mais enfin, il se trouve que j'ai un certain positionnement qui s'est confirmé de livre en livre, que j'ai un public de lecteurs qui se confirme maintenant avec la sortie d'Historiquement Correct, qui démarre très bien. J'ai un jeune lectorat. Il y a beaucoup de jeunes qui me lisent. Alors, ce ne sont pas les jeunes qu'on voit à la télévision forcément, mais ces jeunes-là existent, je le sais. Et j'estime en effet avoir vis-à-vis de mes lecteurs, et notamment de mes jeunes lecteurs, un devoir qui est un devoir de leur présenter et de leur offrir un travail bien fait, c'est-à-dire qu'ils puissent, dans leur discussion autour d'eux, que ce soit dans leur famille, dans leur métier, avec leurs amis, qu'ils puissent avoir des arguments à opposer à des contradicteurs, mais qu'ils soient des arguments fondés, c'est-à-dire que...
Des faits.
Des informations. Voilà, des informations. Et de ce point de vue-là, j'estime en effet que c'est un devoir moral vis-à-vis des gens qui me font confiance, les gens qui achètent un livre de Jean Sévilla. Je les en remercie d'abord, et puis c'est une marque de confiance. Mmh. Et donc, il m'appartient de ne pas trahir cette confiance.
Alors, j'aurais terminé notre première partie sur un positionnement politique. Donc, vous avez dit Le Figaro Magazine, la droite. Bon. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être, d'une certaine façon, plus gramscien que l'ensemble des hommes politiques de droite ? Considérant que, un, d'une certaine façon, le pouvoir politique de droite ou la droite a peut-être laissé tomber le pouvoir culturel, considérant qu'il est à gauche et qu'on ne peut rien y faire, il suffit de voir peut-être les nominations ou ce qui a été fait depuis 5 ans, d'une part. Et deuxièmement, Gramsci, donc, parce que lui avait bien conscience, en étant à l'extrême gauche, que les vraies batailles politiques sont avant tout des batailles culturelles et que si... Il importe de conquérir le pouvoir, il importe d'abord et avant tout de conquérir le pouvoir culturel. Alors est-ce que vous n'êtes pas le Gramsci de droite quand tout le monde, tous les autres, ou beaucoup à droite, ont abandonné l'idée d'injecter, de faire entendre une pensée de droite d'une manière ou d'une autre ?
Alors, je ne récuserai pas cette appellation de gramscisme de droite parce qu'elle est globalement, je suis votre raisonnement et je suis plutôt d'accord. Ma seule réserve, c'est que c'est une image qui a été abondamment utilisée depuis 30 ans, parfois dans des contextes ou par des familles d'idées dans lesquelles je ne me reconnais pas forcément, même si elles s'inscrivent à droite. Je pense à la nouvelle droite, il faut dire les choses au micro pour les auditeurs. Donc, c'est pour ça que, spontanément, ce n'est pas une expression que j'emploierais. Bon. Mais au sens de, vous avez raison, au sens où, en gros, la droite institutionnelle depuis 40 ans, peut-être même 50 ans, je pense à la date des années 60, a en quelque sorte abandonné la culture à la gauche, un peu comme un os à ronger, alors qu'en réalité, c'est un enjeu essentiel parce que moi, je pense que tout est culturel et que, par exemple, la crise financière, la crise de l'euro que nous connaissons aujourd'hui, en réalité, à mon sens, c'est une crise des idées, c'est une crise de la notion de nation, de la notion de souveraineté, de la notion de pouvoir, d'État. Et il y a une crise intellectuelle derrière, une crise du pouvoir. Bon, peu importe, je ferme la parenthèse. Et donc, tout est culturel sans non plus que ça devienne trop banal, parce que si à force de tout mettre de la culture partout, on en vient par la banaliser, elle est nulle part, voilà. Mais je pense aussi qu'il y a donc que ce combat à mener est tout à fait essentiel. Et c'est vrai qu'on regrette. J'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas le seul à mener ce combat-là, Dieu merci. Mais enfin, si nous étions plus nombreux sur ce créneau, ça serait mieux. Voilà. On a parfois une impression, non pas de solitude, mais enfin d'injustice aussi. Parce que, je ne parle pas pour moi, je ne suis pas le plus à plaindre. Moi, je fais partie d'une rédaction d'un grand journal établi. Mais enfin, il y a beaucoup de gens de talent, d'universitaires, d'essayistes, parce qu'ils n'entrent pas dans le moule du système, eh bien, leur œuvre n'est pas assez reconnue, pas assez diffusée. Alors que des gens qui ont 100 fois moins de talent qu'eux, mais qui sont dans le courant à la mode, quand ils publient un livre, ont droit à toute la presse, toutes les télévisions, tout, etc. Il y a une injustice. Voilà. Mais bon, le combat continue, comme on disait en mai 68.
Je vois que c'est peut-être la seule référence positive, oui, de mai 68 que vous prendrez, parce que tous ceux qui vous connaissent et qui vous lisent depuis plusieurs années savent que vous vouez aux gémonies, comme on dit, mai 68. Écoutez, nous allons faire une petite page musicale et donc nous reprenons juste après notre entretien avec Jean Sévilla. Nous reprenons notre entretien avec Jean Sévillat autour de Historiquement Incorrect, donc qui vient de paraître chez Fayard. Je rappelle, Jean Sévillat, que vous êtes rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, et ce, depuis quelques années, mais vous êtes au Figaro Magazine depuis 30 ans, et que donc vous avez fait paraître un certain nombre de livres qui ont connu, comme vous l'avez dit, un certain succès, un succès même certain, donc Le terrorisme intellectuel, Historiquement correct, Moralement correct, et donc maintenant Historiquement incorrect. Et donc je voudrais avec vous, si vous êtes d'accord, aborder un deuxième point, donc de rentrer un tout petit peu plus dans la matière de votre livre, ne pas aborder ce que vous avez abordé dans une autre émission chez nous, et d'essayer de mieux comprendre quelque chose qui est un peu latent à la fois chez vous, mais surtout dans ce livre-là, qui concerne le trouble identitaire national et la place de l'islam à l'intérieur de ce trouble-là. Alors, ma question que j'ai ressentie comme cela est la suivante. Est-ce que l'islam est cause ou conséquence de ce trouble identitaire? Donc, le trouble identitaire, vous citez dans votre livre un sondage de février 2010 qui dit qu'effectivement, 65% des Français pensent qu'il y a un réel affaiblissement de l'identité nationale, et dans les causes citées, l'immigration, donc à 30%, entre comme cause principale, non pas la seule, mais principale, de ce dit trouble. Alors, première question, avant que d'aborder l'affaire Guggenheim, et puis d'aborder aussi d'autres éléments de votre livre, est-ce que vous considérez qu'il y a un lien unilatéral, d'une certaine façon? Est-ce que l'islam est directement responsable de ce trouble identitaire des Français? Ou est-ce que, parce que les Français ne savent plus très bien qui ils sont, ont du mal à se définir, ont un trouble en eux-mêmes lié à leur propre identité nationale, qu'ils acceptent un certain nombre d'éléments extérieurs à leur propre tradition, qu'ils n'accepteraient sans doute pas s'ils étaient plus fiers, pour le dire comme cela, de leur identité propre?
Et je pense que c'est les deux. L'islam est à la fois cause et conséquence. Pour faire court, le trouble identitaire français vient du fait que nous avons vécu au XXe siècle un certain nombre de révolutions, de grands changements, de grands bouleversements. En 1918, la France sort vainqueur de la Première Guerre mondiale, mais c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est un pays épuisé, qui vieillit et qui ne sait pas préparer la nouvelle guerre qui survient 20 ans après. 1940, défaite historique, désastre, qui est un traumatisme terrible. La France se divise, pétainiste contre gaulliste. 1945, la victoire, mais cette victoire, on sait très bien que militairement, c'est en réalité la victoire des Américains et des Anglais, même si nous saluons tous le courage de la France libre et le courage de l'armée jointe, de l'âtre, etc., bien entendu. Mais enfin, bon, la France est rentrée à la table des vainqueurs parce que de Gaulle, habile politique, a mis la France à la table des vainqueurs militairement. La France restait quelque part vaincue. Ensuite, la crise de la décolonisation. La France était une puissance coloniale, l'Empire colonial était un élément de puissance et d'identité de la France. En 15 ans, cet empire est débradé ou démoli, si vous voulez. On entre dans la modernité dans les années 60, mais ce choc de la modernité produit un certain nombre de changements culturels et sociologiques extrêmement lourds. Jusqu'en 1945, près d'un Français actif sur deux était un paysan. 20 ans plus tard, les agriculteurs, on ne dit plus les paysans, ne représentent plus que 20% de la population active. Aujourd'hui, on est à moins de 10%. Donc ce vieux pays rural, dominé par ses clochers, devient un pays tertiaire, industriel, néo-industriel même maintenant, lourd changement sociologique en l'espace de deux générations, c'est très rapide. Jusqu'aux années 1960, 90% des Français étaient baptisés au sein de l'Église catholique. Concile Vatican II, je ne dis pas que c'est le concile qui en est la cause, mais enfin, crise de la pratique religieuse, effondrement de la pratique religieuse dans ces années-là. Et tout d'un coup, accélération avec un recul très très fort de la base, de l'assiette chrétienne du pays, une rupture du christianisme qui était, ce n'est pas un jugement de valeur, je ne le dis pas parce que je suis chrétien, c'est un fait sociologique qui était un liant de la société française. Le christianisme, même dans ce qu'on appelait dans ma jeunesse les banlieues rouges, les enfants était baptisé et allé au catéchisme. Et dans un couple, si monsieur était au Parti communiste, il y avait toujours la maman qui allait quand même de temps en temps à la messe. Ça fonctionnait comme ça. Cette rupture, pour les historiens de l'avenir, sera considérée comme quelque chose de considérable. Années 70, mai 68, rupture, crise de l'autorité, crise de la famille, transformation des critères de la vie privée, liberté sexuelle, etc. Je veux dire, donc, un paysage qui se bouleverse. Et en même temps dans ces années 60, commence. La France était un pays d'immigration limité depuis le 19e siècle, avec une immigration d'origine européenne, italien, espagnol surtout, qui était une immigration autrefois temporaire. C'était des jeunes hommes qui venaient en France pour y travailler, chercher un pécule et qui revenaient dans leur pays ensuite. À partir des années 60, il y a eu une immigration qu'on ne peut pas qualifier d'immigration d'ailleurs, puisque avant l'indépendance d'Algérie, un mouvement de population d'Algériens, mais qui avait, jusqu'en 1962, les Algériens étaient à la fois des nationaux et des citoyens français, hein, ne l'oublions pas, les Algériens musulmans. Donc il y en a un certain nombre qui sont venus travailler en France parce que de même qu'on peut aller de Bordeaux à Strasbourg, eh bien ils allaient d'Alger à la métropole, comme on disait autrefois. Donc un mouvement qui avait commencé, mais indépendance de l'Algérie, ce mouvement il a continué, c'est-à-dire qu'un certain nombre se sont fixés. Et puis ce mouvement il serait remis à grossir à partir des années 60-70. Et là, la proportion bascule, c'est-à-dire que la proportion de migrants qui autrefois, les Européens étaient majoritaires, à partir des années 70, les Maghrébins ou Africains noirs, subsahariens comme on dit aujourd'hui, deviennent majoritaires. Donc tout d'un coup, un changement de population important et avec un grossissement considérable. Le politiquement correct ne voudrait qu'on nous dise que ce n'est pas important. Si, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il entre tous les ans en France l'équivalent de à peu près 300 000 personnes. C'est l'équivalent de la ville de Rouen ou de la ville de Grenoble. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus d'immigration en France. 300 000 personnes, c'est considérable tous les ans. Donc voilà. Donc tous ces éléments-là, et parmi ce nouveau flux migratoire venant du Maghreb et de l'Afrique noire, eh bien donc un élément musulman important au moment où c'est indépendant de la France, mais au moment où l'islam est globalement dans le monde en phase de réidentification. Il y a un courant identitaire musulman, symboliquement qu'on peut dater de la révolution Khomeini en 79, même si l'islam n'est pas un bloc, il y a des pays musulmans qui se combattent les uns les autres. La preuve d'ailleurs, c'est que l'Irak et l'Iran s'étaient fait une guerre, une des plus atroces guerres du XXe siècle. Hein. Mais enfin, ce n'est pas un bloc. Mais enfin, globalement, on est dans ce moment de l'histoire. Il y a deux siècles, l'islam était une religion endormie. Aujourd'hui, c'est une religion vivante. Voilà. Donc tout ça arrive et, autre élément, la France était une nation constituée comme nation par la monarchie, reprise par la République, l'Empire, la Troisième République, etc. Et à partir des années 60-70, on se lance dans un processus de construction européenne très fort qui fait que de plus en plus, au fur et à mesure de traité en traité, l'État républicain, la France, l'État français, a de moins en moins de pouvoir parce qu'il a délégué de plus en plus de pouvoir aux instances européennes. On ne sait d'ailleurs pas toujours à quelles instances européennes, ça aussi fait partie du trouble. Donc autrefois, alors qu'on est en France, l'État, c'est une particularité de française, l'État a constitué la nation. La nation allemande, par exemple, s'est constituée autour de la notion de peuple ou de la notion de langue. L'Italie, c'est la même chose. La France a cette particularité nationale que son État, c'est l'État qui a constitué la nation. Et donc, alors que l'État est le référent français, aussi bien dans la tradition monarchique que dans la tradition républicaine, et alors que c'est l'élément constitutif de la nation, eh bien, on voit l'État perdre de plus en plus son pouvoir, se dessaisir de son pouvoir au profit d'instances indistinctes. Qu'est-ce que c'est exactement que le Parlement de Bruxelles? Qu'est-ce que c'est que la Commission de Bruxelles? Qu'est-ce que c'est que la Commission européenne? Si on faisait un sondage dans la rue, qu'on demandait quelle est la différence entre, et en énonçant les 4-5 principales institutions européennes qui nous régissent normalement aujourd'hui, en 2011, 2012, etc. Mais il n'y a pas un Français sur 5 qui serait capable de l'expliquer. Donc voilà. Alors le trouble identitaire français, eh bien c'est un mélange de tout cela. Ce sont tous ces éléments qui se sont conjugués et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une analyse, d'ailleurs en histoire, en sociologie, il ne faut jamais avoir une analyse monocausale. Rien ne répond à un seul facteur explicatif. C'est toujours un ensemble de raisons, de causes. Et donc, la résultante de tous ces changements qu'on a connus, eh bien, voilà, eh bien, c'est le trouble identitaire français. Nous étions un vieux pays national, nous sommes devenus un élément de l'Europe. Nous étions un vieux pays chrétien, nous sommes un pays post-chrétien. Nous étions un vieux pays rural, paysan, nous sommes devenus une société cosmopolite avec des activités tertiaires, post-tertiaires. Le trouble identitaire français, il est là.
Oui, donc ce qui est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous analysez dans ce livre, pour ne parler que de ce livre-là, les deux éléments dont vous parlez maintenant. C'est-à-dire à la fois cette dénationalisation, cette perte de référent national de la nation elle-même, mondialisation, Europe, c'est ce que vous dites. Et deuxièmement, cette montée en puissance et cette montée en nombre, parce que vous dites qu'effectivement, par exemple, que Michel Tribalat, donc démographe, indique que la population d'origine étrangère dominante islamique serait première, deuxième, troisième génération de l'ordre de 12 millions, 12,5 millions de personnes. Bon. Donc ma question c'est, pour la reformuler comme cela, est-ce que, d'une certaine façon, il n'y a pas un choc identitaire, c'est-à-dire une identité forte qui, d'une certaine façon, s'affirme, celle de l'islam, contre une identité faible qui s'est affaiblie, la nation française, l'idée nationale, l'idée d'appartenir à un même groupe, et que donc nous ne serions pas dans un phénomène d'invasion, mais plutôt dans un phénomène de supplantation, enfin, excusez-moi ce barbarisme, d'une identité plus forte à l'égard d'une identité plus faible qui se serait en elle-même affaiblie.
Oui, pour le fait que cette identité forte, qui est l'identité musulmane, en effet, est aujourd'hui en confrontation avec une identité faible d'un pays qui n'a plus de référent national et qui n'a plus de référent chrétien, en effet. Maintenant, cette confrontation s'appuie aussi sur un phénomène démographique lourd, un phénomène migratoire lourd. Il faut dire aussi que ce n'est pas un phénomène franco-français. C'est très important de le dire. Je ne crois pas une seconde, quant à moi, qu'il suffirait d'ériger une ligne Maginot des Pyrénées jusqu'à la frontière du Nord pour que nous soyons sauvés. C'est un phénomène lourd d'époque. Nous sommes dans une période de basse eau démographique en Europe, une période de l'histoire qui est une période de grande migration à travers le monde. Je veux dire, les États-Unis ont leur phénomène migratoire qui est un phénomène lourd. Enfin, je veux dire, c'est lié aussi au développement de l'avion, du train, de la voiture. On se déplace aujourd'hui 30 fois plus facilement qu'il y a 100 ans. Je veux dire, donc, on est dans une période de migration lourde, surtout tout l'ensemble du globe, d'ailleurs. Et donc, mais nous, Européens, nous avons une pression migratoire qui vient du sud, ou enfin d'un sud, notre sud, à travers la Turquie, etc. Mais donc tous les pays européens sont dans la même situation. Simplement, nous, en France, eh bien, nous sommes en pointe, parce que le phénomène chez nous a commencé il y a plus longtemps que dans certains autres pays, parce que aussi notre législation fait qu'il n'est pas très difficile de devenir français. Il suffit de naître en France et d'émettre le vœu à l'âge de 18 ans. C'est tout ce qu'on a à faire, ce qui n'est pas très difficile, parce que même si on ne parle pas le français, même si on n'aime pas la France, même si on ne se sent pas français, on devient français. Donc, même si ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais comme c'est mon métier, je le fais, je dis, il y a quand même, aujourd'hui, il est interdit de poser la question, est-ce que notre législation est prête à répondre légitimement aux soucis de l'avenir de la France. Le débat est ouvert. Enfin non, il n'y a pas de débat, justement. Il est interdit le débat. Enfin, moi, je pense qu'il y a une véritable préoccupation de ce côté-là. Pour revenir à ces éléments-là, alors, pour ce qui est de l'islam proprement dit, alors attention, là aussi, il ne faut pas non plus confondre immigration et islam. Ce n'est pas la même chose. Évidemment, il y a une corrélation forte, mais il ne faut pas les confondre. Il y a aussi des musulmans français qui sont et musulmans et français depuis très longtemps. De toute façon, je nie à personne le droit d'être musulman, et évidemment, je ne nie pas non plus à qui que ce soit le droit d'être français, la question n'est pas là. Mais donc, il faut savoir comment s'ancre une communauté dans une histoire. Or, je constate objectivement, parce que je le fais avec un regard d'historien, c'est dans Historiquement Incorrect, donc j'ai un chapitre sur la question de l'islam, si on regarde ça de manière synthétique, il y a trois phases dans les rapports entre la France et l'islam. Alors, la France est un pays, l'islam c'est une civilisation, une religion. On n'est pas dans le même domaine, mais enfin je simplifie. Très schématiquement, du 7e siècle, apparition de l'islam, au 19e siècle, on a un rapport d'altérité. C'est deux mondes qui ne se confrontent pas, ou quand ils se rencontrent, c'est guerrier, ça peut être avec un rapport de séduction, c'est l'orientalisme, etc. Mais enfin, c'est deux mondes qui ne se mélangent pas.
Enfin, qui sont même, dites-vous dans votre livre, qui sont plutôt en opposition, en confrontation.
Bien sûr.
Voilà, donc.
Bien
voilà.
Sûr.
Donc deuxième phase, c'est la colonisation.
La colonisation, l'islam entre dans l'espace français. C'est une phase qui prend fin schématiquement dans les années 1960. Et on s'aperçoit que, pour faire court, 1860 à 1960, donc pendant un siècle, la France a tourné autour du même problème sans jamais trouver de solution totalement satisfaisante pour dire comment est-ce qu'on fait pour être musulman et français. C'est-à-dire, quel est le degré, quelle est la compatibilité entre l'appartenance à l'islam et l'appartenance à la nation française ? Et il ne faut pas dire que c'est tout simple. Non, ce n'est pas tout simple. Il y a eu des solutions qui étaient toujours des solutions de compromis et qui naissaient dans un certain contexte, je le dis dans le livre, c'était souvent un contexte militaire, un contexte guerrier, Il faut bien voir que si on... Tous les harkis, pour faire court, c'est un terme un peu générique, mais enfin, tous les musulmans français, enfin les musulmans d'Algérie qui se sont engagés fermement pendant la guerre d'Algérie derrière la France, étaient encadrés par des hommes qui avaient tous fait la Seconde Guerre mondiale, qu'il a fait dans l'armée d'Afrique.
Je rappelle, pour abonder dans votre sens, parce que votre livre est un livre qui amène à la connaissance de ceux qui savent sans savoir, tout en pensant en savoir, des éléments chiffrés. Donc vous dites, il y a eu 500 000 soldats musulmans qui ont participé à la Première Guerre mondiale, 250 000 musulmans qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1939, et 233 000 combattants qui venaient de ces pays-là dans l'armée de la libération, disons pour faire vite, du général de Gaulle. Voilà. Donc il y a eu quelque chose qui est effectivement une contribution militaire, ce que vous disiez, voilà, massive de toutes ces populations-là.
Tout à fait. Mais elles étaient engagées dans un combat qui était celui de la France et elles participaient du patriotisme français. Voilà. Troisième phase, il n'y a plus de colonies. Et là, on a une immigration musulmane qui arrive en nombre et qui débouche dans un pays où l'idée française n'est plus à la mode, où les Français eux-mêmes, les Français de souche, les Français de filiation, souvent, bien, on ne leur apprend pas le patriotisme, et le même, donc, puisqu'ils ne l'ont pas appris, ça fait maintenant plus de 50 ans qu'on ne leur apprend plus, donc ils ne le professent pas. Et donc, les musulmans qui arrivent en France et qui deviennent Français en fonction de l'état de notre législation, à 18 ans, qui ont le droit d'opter pour la nationalité française, eh bien, en réalité, ils arrivent dans un pays où on ne leur a pas appris à être Français, on ne leur a pas appris à aimer la France. Donc, on retrouve aujourd'hui des problèmes qu'on a eus il y a 50 ans ou 60 ans ou 80 ans dans l'espace colonial. Mais ces problèmes qu'on avait dans l'espace colonial, en réalité, on les a aujourd'hui sur le territoire historique de la France, qu'on appelait la métropole du temps de la colonie. Mais on retrouve ces questions-là. Comment est-ce qu'on fait pour être pleinement musulman et pleinement français ? Je ne dis pas qu'il y a de réponse toute faite, je ne dis pas que moi-même j'ai une réponse toute faite, c'est une question très complexe. Et je ne prétends pas, attention, pour ceux qui m'écoutent, je ne dis pas qu'il est interdit ou impossible d'être et musulman et français. Je dis que ça n'est pas simple et je dis que c'est une question qu'on ne peut pas dire « non, il n'y a pas de problème ». Je dis « si, il y a un problème ». Ça ne veut pas dire que c'est impossible de le résoudre, ce problème. Mais je dis « regardons-le en face ». Et pour résoudre un problème, la pire solution, c'est précisément de ne pas regarder le problème. Parce que le problème, dans la mesure où il existe, il croît, il s'aggrave. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, on le sait très bien, dans les banlieues où il y a toute une partie de la jeunesse issue de l'immigration qui est totalement déracinée. Ils ne sont pas de leur pays d'origine, de leurs parents, parce qu'ils n'y sont jamais allés, ça ne leur dit plus rien. Mais ils ne sont pas non plus d'ici. Alors ils vivent dans une espèce de monde fantasmatique, avec un peu de violence, un peu de rap, un peu de vidéo, de films américains, de casquettes de baseball à l'envers. C'est un espèce d'univers fantasmatique qui leur construit dans leur univers de béton, qui leur construit une petite identité, et avec un courant dans ce milieu-là, qu'il faut le signaler aussi, qui est de plus en plus attiré, parce que aussi, en réaction à ça, avec un courant qui est attiré de plus en plus par une lecture radicale de l'islam, qui lui fournit un cadre identitaire, fournit des références morales, et donc qui aspire de plus en plus, mais dans une vision très communautaire, des jeunes issus de l'immigration. Donc je dis danger.
Alors contrairement à ce que certains disent de vous, ou caricatures qui traînent sur vous, vous avez donc sur ces sujets-là un double front d'opposition, à la fois sur l'affaiblissement donc de l'identité nationale interne, en nous-mêmes, et d'autre part sur effectivement cette montée à la fois en nombre et en valeur de l'islam. Par contre, il y a un sujet, et je voudrais qu'on termine là-dessus, il y a un sujet sur lequel vous êtes d'une lucidité forte et d'une critique forte aussi, c'est d'une certaine façon la démission d'un certain nombre d'historiens face à l'idée qu'ils se font de ce que nous devrions à l'islam. Et vous avez un chapitre dans votre livre, sur l'affaire Guggenheim. Alors, je rappelle l'affaire Guggenheim en deux mots pour que vous nous disiez ensuite ce qu'il faut en penser. Donc, Guggenheim donc, est un universitaire et il a eu la malheureuse idée ou la bonne idée de faire un livre sur justement l'apport de l'islam, c'est-à-dire de savoir si, contrairement à ce qui est dit un peu partout, nous avons une dette historique à l'égard de l'islam qui aurait traduit et donc donné, transmis à nous, Occident, les trésors de la philosophie, de la médecine grecque. Voilà. Et donc, le dit Guggenheim dit, mais finalement, ce n'est pas si clair que cela, il y a une transmission qui s'est faite au sein ou par les chrétiens syriaques et de langue arabe, et qui ont, eux, traduit du grec en arabe, et c'est eux, sans doute, qui nous ont transmis cet élément-là. Donc, je voudrais, un, que vous nous disiez un peu comment les choses se sont passées pour lui, parce qu'il a été un peu mis de côté, pour employer un euphémisme, d'une part, et qu'est-ce que cette affaire-là révèle, pensez-vous, de l'idée que les intellectuels ou les autres intellectuels pensent de cette dette que nous aurions à l'égard de l'islam.
Oui, alors donc en 2008, Sylvain Guggenheim, qui est professeur à l'École normale de Lyon, publie un livre intitulé « Aristote au Mont Saint-Michel », qui est un livre d'historien, ce n'est pas un pamphlet, fondé sur des sources, c'est un livre documenté. Les sources sont nombreuses, sont citées, et les choses sont claires. Il contredit en effet la Vulgate selon laquelle, aujourd'hui, il y a une idée dominante selon laquelle nos savoirs, le savoir antique au Moyen-Âge aurait transité au Moyen-Âge, donc précisément par les Arabes. Alors, Guggenheim montre qu'il y a plusieurs voies, que d'une part, il y a toujours eu en Occident, au sein même de l'Occident latin, des textes grecs qui étaient restés avec des traducteurs qui travaillaient, par exemple au Mont-Saint-Michel, mais il y a d'autres écoles de traduction. Donc cette source-là interne n'a jamais cessé d'abreuver la pensée. Qu'il y avait un échange entre Byzance, c'est-à-dire l'Empire chrétien d'Orient, et l'Occident latin continuel, donc qui ne devait rien aux Arabes, et donc des textes grecs qui parvenaient par cette filière-là, qu'au sein de l'islam, c'est-à-dire au sens islam, au sens civilisation, pays dominé par l'islam, étaient restés des très larges poches chrétiennes. Il y avait même, dans certains pays, les chrétiens étaient même presque majoritaires, hein, il ne faut pas l'oublier. L'islam était un système de domination par les musulmans, mais je veux dire, la population d'origine chrétienne était souvent en place au début. Aujourd'hui, elle a fini par disparaître, mais enfin bon. Et donc, il y avait des traducteurs du grec, et ils traduisaient en grec, mais c'est souvent des chrétiens, exemple les chrétiens syriaques, ou aussi à Tolède, en Espagne, l'école de traducteurs de Tolède, la plupart des traducteurs étaient des chrétiens. Et puis, en effet, les Arabes musulmans ont transmis, ont traduit un certain nombre de textes et les ont transmis, mais ce que rappelle Guggenheim, c'est qu'ils ont transmis en réalité ce qui était compatible avec la vision coranique du monde, et ils ont laissé le reste. Voilà. Donc, voilà. C'est un livre sans polémique, ce n'est pas une déclaration de guerre à l'islam, il n'y a rien du tout, c'est un livre d'historien. Voilà. Donc, ça a donné lieu à une campagne de violence incroyable contre cet homme, parce que précisément, on l'a accusé d'islamophobie. Donc aujourd'hui, l'islamophobie, c'est une arme d'intimidation massive. Hein. Je veux dire, si on vous accuse d'islamophobie, ça veut dire que vous êtes raciste, etc. C'est une confusion qu'on fait parce que l'islam, c'est une religion, ce n'est pas une race. Donc on peut critiquer l'islam sans être raciste, ça n'a rien à voir avec le racisme. C'est de l'ordre du débat d'idées, c'est de l'ordre du débat religieux, du débat historique, qui normalement est libre, que je sache, en France. Enfin, non, mais alors non, la preuve que non. Donc, campagne, pétition, demande d'interdiction de Sylvain Guggenheim. Alors, il a quand même été finalement, il a beaucoup souffert personnellement de cette campagne. Il a finalement été protégé par son statut universitaire parce qu'on ne pouvait pas le virer comme ça, parce qu'il n'avait pas fait de faute objective. Mais il est quand même au placard dans la mesure où, quand il y a des grands colloques aujourd'hui, y compris dans ces domaines de spécialité qui n'ont rien à voir avec le sujet, qui sont par exemple les chevaliers teutoniques, on ne l'invite plus. C'est-à-dire qu'on a dressé un cordon sanitaire autour de lui. Voilà, on lui laisse, il a ses étudiants à Lyon, mais pour le reste, l'université le traite comme un pestiféré. Tout ça parce que, eh bien, il a remis la Vulgate en cause qui concerne l'islam. Alors justement, c'était votre question. Qu'est-ce que c'est que cette Vulgate en cause ? Ben voilà, on est dans une situation actuelle d'intimidation où pratiquement l'islam devient un objet intouchable. Et avec une mécanique d'intimidation, donc fondée sur l'antiracisme, comme je le disais, ce qui est donc une escroquerie, parce que l'islam est une religion, ça n'est pas une race. Et puis parce que, il y a des pressions physiques, il peut y avoir des menaces. Alors, je ne dis pas que...
Des pétitions,
etc. Et je ne dis pas non plus que ce sont les musulmans, globalement, qui soient derrière tout ça. Hein, je veux dire, les trois quarts ou les 95% des musulmans en France, qui vivent en France, sont des braves gens, qui font leur travail, c'est tout. Je n'accuse pas la communauté musulmane de vouloir mettre le feu au pays, il dit ça. Mais je veux dire, il y a une minorité très activiste qui peut éventuellement pratiquer des menaces comme on l'a éprouvé le philosophe Robert Redeker il y a quelques années. Mais il y a une telle fascination pour sidération vis-à-vis de l'objet islam chez les intellectuels français qui ne veulent pas avoir l'air justement d'être au nom du différentialisme, au nom de l'antiracisme, etc. L'islam devient un objet intouchable et celui qui fait une critique contre l'islam, mon Dieu, il fait peur et donc hop, on le met de côté. Voilà. Donc voilà où nous en sommes et je pense que c'est extrêmement dangereux et c'est pour ça qu'il m'a paru important dans ce livre historiquement incorrect d'accorder un chapitre à l'affaire Guggenheim parce qu'elle est très révélatrice et voilà, j'ai essayé de faire ça en historien. Je ne décerne d'ailleurs pas un blanc-seing total à Sylvain Gounam. Il y a une partie de son livre qui ne me paraît pas tenir debout, je le dis dans mon livre, quand il dit notamment qu'il y aurait une sorte d'incompatibilité presque ontologique entre la langue arabe et la pensée grecque. Ça me paraît totalement contradictoire avec ce qu'il dit sur le fait de l'importance des Syriaques. Je ne comprends pas cette partie-là de son livre. Je l'ai dit d'ailleurs. Donc voilà, j'ai essayé de faire une œuvre, moi aussi à mon échelle, une œuvre d'historien en mettant en regard ce qu'on doit aux Arabes ou ce qu'on ne leur doit pas.
Écoutez, nous allons conclure là notre entretien en vous remerciant d'être venu jusqu'à nous. Et je rappelle donc à nos éditeurs que vous venez de faire paraître Jean Sévillien historiquement incorrect chez Fayard et que, outre les sujets que nous avons traités, dans les 10 chapitres, il y a aussi le Jésus de l'histoire, Galilée, la colonisation, la Seconde Guerre mondiale, le Vatican contre Hitler, etc. Enfin bref, un certain nombre de sujets qui sont effectivement des sujets un peu pour la gratter, comme on dit, qui sans doute ne bénéficient pas toujours dans les autres médias d'une double dimension, hein, de voir tous les éléments. Peut-être qu'il y a sans doute par ailleurs beaucoup trop d'unilatéralisme ou de vision unique de ces sujets-là. Donc vous apportez, et je le dis parce que c'est vrai, vous apportez avec beaucoup de références, beaucoup de chiffres, beaucoup de renvois à des historiens qui ont travaillé plus que vous sur tous ces sujets-là, les uns séparés des autres, donc des éléments d'information qui permettent à ceux qui ne vous aiment pas a priori de pouvoir mieux s'informer sur ces sujets-là, et à ceux qui vous apprécient, et Dieu sait que vous avez des lecteurs, de mieux suivre ou renforcer un certain nombre de thèmes que vous avez déjà abordés avec de nouvelles informations et de nouveaux arguments pour mieux défendre la compréhension qui est la vôtre, avec d'autres, de ces différents sujets-là. Jean-Sévillien, merci. Donc, je rappelle aux éditeurs Historiquement Incorrect qui vient de paraître chez Fayard.
Merci.
Merci.